Lutter contre la dépendance aux jeux grâce à un site internet et une appli, c'est l'un des objectifs du programme intercantonal de lutte contre la dépendance aux jeux. L'occasion pour Noëlle Béchard de nous arrêter quelques instants sur cette dépendance justement.
Oui, selon Addiction Suisse, environ 60% de la population âgée de 15 ans ou plus a déjà joué au moins une fois dans sa vie à un jeu de hasard. Les jeux de hasard les plus joués en Suisse sont les loteries et les paris. À l'heure actuelle, les jeux de hasard sur internet figurent parmi les moins utilisés, mais ça pourrait changer du fait de l'augmentation de l'offre, évidemment. Une étude a montré qu'en 2005, en Suisse, environ 80 000 personnes étaient considérées comme étant des joueurs problématiques, donc qui présentent un comportement de jeu à risque, ou des joueurs pathologiques qui ont développé donc une vraie dépendance au jeu de hasard. On reste cependant prudent par rapport à ces chiffres, vu que les méthodologies diffèrent d'une étude à l'autre pour essayer de profiler qui fait partie de la première catégorie de joueurs ou de la deuxième, donc joueurs problématiques ou joueurs pathologiques. Pour vous dire, une autre étude estime qu'on peut même parler de plus de 120 000 personnes concernées en Suisse, dont une majorité d'hommes, 70 à 80%.
Alors, on a des chiffres entre 80 et 120 000 personnes qui seraient concernées. C'est une affaire, évidemment, une affaire coûteuse.
Non seulement pour elles-mêmes, pour les personnes elles-mêmes et pour leur entourage, selon une étude suisse parue en 2012, mais il coûte également pas mal d'argent à la collectivité, puisqu'elles recourent, ces personnes, plus fréquemment aux soins de santé que la population en général. Leur taux d'activité et leurs revenus sont plus faibles et leur santé plus précaire. C'est ce qui ressort d'une analyse de l'enquête suisse sur la santé et d'une enquête spécifique auprès des personnes traitées pour des conduites addictives liés au jeu d'argent. En clair, le jeu excessif coûte chaque année entre 551 et 648 millions de francs suisses, hein, quand même, à la collectivité, sous forme de dépenses de santé, de production non réalisée et de perte de qualité de vie liée à la santé.
Avec nous ce matin, Daniele Zullino, bonjour.
Bonjour.
Médecin-chef du service d'addictologie du département de la santé mentale et psychiatrie des hôpitaux universitaires de Genève. Comment distinguez-vous un joueur problématique d'un joueur pathologique ?
Alors, un joueur problématique est un joueur, comme le nom le dit déjà, qui a rencontré déjà des problèmes liés au jeu, mais qui n'a pas encore complètement perdu le contrôle, donc qui peut encore décider s'il veut initier ou s'il veut arrêter à jouer. Un joueur pathologique, on utilise aujourd'hui le terme de trouble lié au jeu d'hasard. On pourrait aussi dire addiction au jeu d'hasard. C'est un joueur qui a perdu ce contrôle, donc qui parfois initie son comportement de jeu à l'encontre d'une décision qu'il a prise auparavant ou qu'il n'arrive plus à s'arrêter du moment qu'il s'est lancé dans le jeu.
Alors quand on pense dépendance au jeu, c'est-à-dire troubles liés au jeu de hasard, on pense évidemment assez vite aux dépenses faramineuses qui mettent en danger l'équilibre d'un individu et de sa famille. Pour vous, quel est l'aspect finalement le plus dramatique de cette dépendance ?
Alors du point de vue de son environnement, ce sont clairement les problèmes financiers. D'un point de vue individuel, ça ajoute éventuellement le sentiment de perte de contrôle, qui est encore une fois typique de l'addiction, la frustration finalement de ne plus être maître de ses actions. S'en suivent après d'autres problèmes qui peuvent être au niveau du travail. Du moment qu'on investit pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, de l'énergie, des intérêts dans un comportement, d'autres comportements seront négligés. Donc, famille, enfants, etc.
Ces phénomènes de boule de neige un peu.
Exactement.
Alors, s'il fallait raconter l'histoire malheureusement classique d'une personne qui rentre dans une dépendance au jeu de hasard, comment est-ce que vous la raconteriez ?
Je la raconterais plus ou moins comme l'histoire d'une autre personne avec une addiction. Ça commence avec une consommation, ici avec un jeu qu'on pourrait appeler de raisonner. Donc où on a des bonnes raisons, ça pourrait être le plaisir, l'évasion, éventuellement une anxiolyse, il peut y avoir plein de raisons, une grande variété de raisons pour jouer. Plus on avance dans le développement d'une addiction, moins il y a cette variation. Ça aboutit dans quelque chose de moins varié. Finalement, dans la compulsion, dans ce qu'on peut appeler le jeu automatique. Au lieu de prendre des vraies décisions, il suffit d'un événement, d'un stimulus, et puis on se lance dans ce comportement.
Au début, on se dit, j'y vais pour me détendre un petit peu, etc. La pensée est encore là, et au bout d'un moment, il suffit d'une image qui fait penser, et puis on y va, quoi. Ou c'est l'heure de, etc.
C'est exactement ça. Ouais. Oui. Au début, on aurait éventuellement encore un raisonnement qui nous permet de nous arrêter au moment où la consommation, le jeu, n'apporte plus les avantages espérés. C'est ça qu'on appelle un raisonnement. Le joueur addict n'a plus ce raisonnement.
Existe-t-il un profil particulier de personnes qui vont développer ce type de dépendance?
Alors, plutôt que de parler de profil, on pourrait parler de facteurs de vulnérabilité. Il y a certains facteurs qui se combinent à la fin, qui augmentent le risque.
Lesquels?
Alors, c'est surtout l'impulsivité, ça on le sait aujourd'hui, mais l'impulsivité comme elle apparaît dans d'autres troubles qui sont souvent comorbides avec le jeu pathologique, comme par exemple d'autres addictions, notamment l'addiction à l'alcool ou à la cocaïne. Mmh. Après, il faut aussi considérer qu'il y a d'autres facteurs risques, c'est la proximité, ou jusque maintenant c'était surtout la proximité avec un casino, aujourd'hui avec Internet, c'est sous le coude.
Ouais.
Ben oui.
Alors, c'est le fameux système de récompense dans notre cerveau qui est impliqué dans cette dépendance au jeu. Si un individu a besoin de reproduire un gain pour que son système de récompense fonctionne en le gratifiant, on va dire, d'une chimie sympathique à l'intérieur de son cerveau, ça veut donc dire qu'au départ, il y a eu un début, il y a eu un gain qui lui a procuré une sensation agréable qu'il a envie de reproduire. Mais je suppose qu'une fois, ça suffit pas à être dépendant. Comment ça s'installe, cette interaction entre le jeu et le cerveau?
Alors, vous avez absolument raison. Au début, il doit y avoir un plaisir pour qu'on répète un comportement. C'est comme ça qu'on raisonne. Ça m'a fait plaisir la dernière fois. Probablement, la prochaine fois, ça va me faire plaisir. Donc, je vais recommencer. Alors, le système de renforcement, il faut plutôt parler de système de renforcement que de récompense. C'est phylogénétiquement un ancien système. Déjà, des animaux très primitifs ont un système similaire. Il sert, entre guillemets, à la survie de l'individu et de l'espèce, donc à transmettre des gènes. Là, vous pouvez vous imaginer que ça ne s'est pas développé autour des casinos ou des jeux d'hasard. C'est quelque chose qui nous accompagne depuis des millions d'années. Et en fait, notre cerveau, on a toujours le cerveau de l'homme des cavernes, mais dans un environnement qui n'est plus celui-là. L'évolution biologique est bien plus lente que l'évolution culturelle et ça nous pose les problèmes qu'on connaît dans les addictions et pas seulement dans les addictions. On a tendance, en général, à chercher des régularités dans l'environnement. Et du moment qu'une prévision qui était peu probable, donc d'un événement peu probable, se réalise, ceci donne un signal de renforcement du comportement. Et c'est exactement ce qui arrive au casino, le jeu
de hasard.
Hasard, justement. Il y a un gain qui pouvait être prévu, mais pas à tous les coups. Et ceci va avoir un effet renforçateur.
Alors, ce qui paraît difficile à comprendre, c'est pourquoi, comment ces personnes n'arrivent plus à se raisonner. Elles savent pourtant qu'elles aggravent leur situation, elles le voient bien. Elles savent que c'est le casino qui gagne au final. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Là, il faut donner deux réponses. Une, c'est que l'addiction n'a rien à voir avec le raisonnement. Donc, du moment qu'on se comporte de façon addictive, on se comporte de manière automatique. Si vous voulez, les régions les plus modernes de notre cerveau, typiquement humaines, ne fonctionnent pas assez. C'est des fonctions très très primitives. Si vous voulez, le cerveau du reptile qui prend le dessus. Et puis on s'imagine très bien qu'un crocodile, ça réfléchit pas grand-chose, ça mord quand ça doit. Et c'est un peu dans le même style qu'on agit quand on est addict. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect est que même si le joueur pathologique, le joueur addict réfléchit, il a parfois ce qu'on appelle des biais cognitifs. Il a des fausses croyances qui induisent des comportements particuliers. Il a par exemple l'impression de pouvoir contrôler le hasard, ce qui est contraire à la définition de l'hasard, ou de pouvoir prédire le résultat d'un jeu d'hasard, ce qui est aussi contraire à son principe. Ces deux problèmes seront aussi le point d'attaque de beaucoup de traitements comme celui qui sera proposé sur ce nouveau site internet.
Voilà, ce nouveau site internet qui s'appelle sos-jeux.ch. C'est un programme intercantonal de lutte contre la dépendance qui est lancé aujourd'hui. Un site internet et une appli pour se prendre en charge individuellement et développer des stratégies pour éviter de craquer. Ça peut vraiment marcher quand on est gravement finalement accro-dépendant. Ça résiste à une attaque de « il faut que je joue ».
Oui, parce que ce qui nous reste quand même, c'est notre cerveau moderne. On garde tout de même la capacité de raisonner. Seulement, il faudra l'activer au bon moment. Ces traitements ils serviront justement à rendre plus probable l'activation du raisonnement. On peut déjà réduire les problèmes. On reprend ce principe d'un principe qui est déjà appliqué dans d'autres addictions, notamment dans l'addiction aux opiacés ou à l'alcool. C'est le principe de la consommation contrôlée. Donc, l'abstinence n'est pas toujours la seule solution. On peut déjà réduire les dégâts en réduisant par exemple le temps du jeu, l'argent investi, même si c'est trop, c'est toujours mieux que ça soit moins grave que tout à fait grave.
Merci d'être venu nous en parler ce matin dans CQFD, Daniele Zullino. Vous êtes, je le rappelle, médecin-chef du service d'addictologie du département de la santé mentale et psychiatrie des HUG. On souhaite une belle journée, à bientôt dans CQFD.
À vous aussi, merci.
CQFD sur la première.